profitons beaucoup au plan spirituel, plan surnaturel de ce temps de l'ascension à la Pentecôte. D'abord parce que beaucoup de nos frères sont en préparation de la profession perpétuelle, de la profession simple et de la prise d'habit. Un certain nombre, quand on additionne, c'est aussi un moment de lutte, comme toujours. Avoir la profession perpétuelle, le démon rôde. Avoir la profession simple aussi. Tout le temps, on remarque ça. Il y a toujours, sur la route, certains ils sont précipités dans le fossé. C'est très curieux de voir ça. C'est pas drôle, hein, mais c'est curieux de voir combien le démon essaie toujours d'ennuyer, d'arrêter. Alors il faut que nous soyons tous liés dans ce moment particulièrement grand pour nous. Et puis cette année-ci spécialement, l'ultime préparation à l'année mariale, qui sera proclamé quand nous serons à Paris Monial et nous serons en union avec le pape qui, dans un geste assez extraordinaire, se servant de toute la technique d'aujourd'hui, voudra comme faire un geste rassemblé auprès de Marie les chrétiens du monde entier. Marie qui rassemble ses petits poussins, l'image de Jésus qui nous rappelle cela, et c'est un peu ça que le Saint-Père veut faire. Ça lui va très bien, du reste. C'est tout à fait ce geste très très paternel et maternel. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Un geste de tendresse. Évidemment, ça passe par la technique, alors c'est la tendresse de la technique assez particulière. Mais la tendresse de Marie est plus forte. Elle se sert de tout cela pour faire cette espèce d'unité. La mère qui veut l'unité et qui la veut farouchement. Ce petit signe que Marie veut rassembler tous ses enfants et qu'elle veut les rassembler en tant qu'elle le peut, d'une façon visible, comme un petit signe. Il faut que soyons sensibles à cela, parce qu'il y a un appel au point de vue profond. L'année mariale, de l'ascension à la Pentecôte, c'est la première retraite de l'Église. C'est pour ça que c'est bon pour nous d'entrer en retraite dans le silence. On ne voit pas des choses extraordinaires, mais comme beaucoup de la communauté entrerons dans une retraite plus nette, que tout le monde fasse cet effort de silence et d'intensité au point de vue de la prière, d'être plus donné et de vivre davantage de ce grand mystère du retour vers le mystère du roi. elle désire que nous entrions dans cette pédagogie qu'elle a vécue, pédagogie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'a éduqué, et il l'a éduqué pour nous, pour que nous puissions ensuite vivre avec elle ce mystère.
C'est bien dans cette expérience intérieure
printemps, ce don de sagesse qui fait que elle se donne entièrement. Marie connaît l'Esprit Saint à l'Annonciation, pendant toute la période de formation du corps du Christ. Elle vit à l'ombre de la toute-puissance de Dieu et du Père. Elle vit dans la docilité de l'Esprit Saint qui travaille en elle. Marie vit sous la docilité de l'Esprit Saint à travers tout le mystère de la naissance et de l'éducation, la première éducation maternelle qu'elle donne à l'enfant Jésus. Et plus on a l'expérience de l'Esprit Saint, plus on a soif qu'il prenne tout. Et ça ne peut pas s'apprendre de l'extérieur, ça. Et ça, notre Seigneur le dit bien, le monde est incapable de recevoir l'Esprit Saint. Je crois qu'il faut qu'on y pense beaucoup à ça. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit pas, et parce qu'il n'a pas cette soif d'aimer. Vous savez bien, c'est cela qui est la chose la plus terrible, c'est que le monde, c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas en état d'attente de l'Esprit Saint, les hommes qui sont repliés sur eux-mêmes, les hommes de la terre, comme dirait l'Apocalypse, les habitants de la terre, ils sont repliés sur eux-mêmes, n'ont plus aucun désir d'être sous la mouvance de l'Esprit Saint. N'ont plus aucun désir d'aimer. C'est ça le grand mal de notre monde aujourd'hui, c'est ce manque d'amour. Et au fond, cette perte du désir d'aimer, ce repliement sur soi. Alors je crois que dans la mesure où on prend un tout petit peu conscience de cela, on doit réparer. On doit avoir soif de la venue de l'Esprit Saint pour tous ceux qui n'ont plus cette soif. Il faut que nous ayons cette soif pour toute l'humanité d'aujourd'hui, pour notre humanité d'aujourd'hui, et tous ceux qui ne savent plus ce que c'est qu'aimer, tellement ils sont repliés sur eux-mêmes, ils ne savent plus ce que c'est que se donner. Ils ne savent plus ce que c'est que se donner divinement sous l'action de l'Esprit Saint. Il peut y avoir encore un tout petit peu d'amour humain. Mais cet amour est vécu d'une manière trop humaine. Donc dans un repliement sur soi. Et je crois que c'est ce que Marie a vécu avec une telle intensité, de comprendre que le monde qu'elle vivait n'avait pas soif de l'Esprit Saint. Les pharisiens, en tant que pharisiens, n'ont pas soif de l'Esprit Saint parce qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Quand on est satisfait de soi-même, on ne peut plus recevoir l'Esprit Saint. Le pharisaïsme, c'est ce qui empêche cette réceptivité à l'Esprit Saint. Ce qui empêche d'avoir soif de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne se donne qu'à ceux qui ont soif de lui. C'est pour ça que c'est si important pour nous, durant ce temps de l'ascension à la Pentecôte, d'exercer en nous cette soif, de le dire tous les jours, qu'on a soif d'aimer, qu'on a soif que notre cœur s'agrandisse à la dimension du cœur de Marie, à la dimension du cœur de Jésus. Qu'on a soif d'aimer et d'être un lieu tout entier. brûlé par l'amour. Il faut le dire, même si notre cœur est sec, aride, même si nous ne ressentons rien. Vous savez bien, c'est pas une question de sentir. Il faut toujours bien se rappeler ça. L'Esprit Saint, c'est pas une question de sentir. Il y a des gens qui ont très vite la larme à l'œil. Hein. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint est là présent. Hein. Puis il y a des gens qui sont secs comme des trucs. Et ils sont cependant habités par l'Esprit Saint. C'est une question de volonté. Hein. Et de bonne volonté. Paix aux âmes de bonne volonté. C'est une question de volonté. Cette volonté qui mobilise en nous toutes nos forces. Et on désire que notre cœur s'ouvre pleinement à ce don qui est l'Esprit Saint. Que notre cœur s'ouvre à ce don merveilleux. Je suis venu pour cela, nous donner son esprit. Il nous donne son corps. Il nous donne le trésor de son cœur. Et il nous donne son esprit. Bien voir ces trois dons successifs du sacerdoce du Christ qui nous aident à découvrir ce qu'est son sacerdoce. Et c'est vrai, il nous donne son corps, l'Eucharistie, il nous donne Marie, son trésor, le trésor de son cœur, la perle, et puis il nous donne son esprit. L'esprit du Père et son esprit. Mais pour cela, il faut que soyons dans cette attitude de soif pour le recevoir. Cette capacité qui dépend de nous. Si on comprenait ça, ça dépend de nous. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas venir normalement. Il peut évidemment forcer les portes et nous jeter par terre. Il peut le faire. C'est le tonnerre. C'est les éclairs et le tonnerre. Alors il peut facilement le faire. Mais normalement, il ne le fait pas. Il aime d'agir suavitaire. Et l'Esprit Saint aime beaucoup mieux d'agir suavitaire que ordinaire. De temps en temps, on voudrait bien qu'il agisse avec force. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Quand l'Esprit Saint agit avec suavité, avec douceur, on risque toujours un tout petit peu de s'endormir. Tandis que quand il agit avec force, on est secoué. Alors on commence plus facilement à comprendre qu'il est là. Mais il faut demander à l'Esprit Saint. Il faut mobiliser, j'allais dire, toutes nos capacités pour vouloir. Pour que notre cœur s'ouvre. Dans un grand appel à l'Esprit Saint. Il faut que pendant ces quelques jours, nous ne cessions de dire intérieurement, vous voyez, la prière perpétuelle qui s'y prend toute sa signification, qui doit être pendant ce temps, cette promesse de Jésus par rapport à l'Esprit Saint. Cette promesse, Jésus nous promet qu'il nous l'envoie et qu'il veut nous l'envoyer. Donc on sait que du côté du Christ, cette promesse est en acte pour nous. Mais c'est nous qui n'ouvrons pas assez notre cœur. Ou parce qu'on est un peu blessé. Ou parce qu'on manque. On manque de volonté. On manque de mobiliser toutes ses forces pour dire qu'on n'a qu'un seul désir, c'est qu'il vienne et qu'il prenne tout. Il faut que nous demandions cela. Cette espérance, je vous enverrai le paraclet. Marie la reçoit dans son espérance. espérance. Elle est notre espérance. Quand elle prend au plus intime de son cœur cette parole de Jésus, qui est la dernière promesse de Jésus, réalisée sur la terre, je vous enverrai le paraclet. Et cette promesse qui est déjà réalisée, qui doit se réaliser de plus en plus, fait comprendre comment marier notre espérance, puisque en vivant de cette parole de Jésus, je vous enverrai le paraclet. Marie nous fait comprendre ce que c'est que l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est d'ouvrir tout grand notre cœur, nos désirs, notre soif à cette venue du paraclet, à ce don du paraclet, à ce don d'amour. Et il faut que nous ayons nous-mêmes cette même soif et que nous demandions à Marie de nous apprendre à la voir. C'est important de fortifier notre espérance. Parce que c'est souvent ce qui nous manque, hein. Vous savez bien que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre monde aujourd'hui. C'est de vivre pleinement de l'espérance et de vivre de cette espérance dernière. À l'égard du paraclet. Parce que c'est vraiment l'espérance dernière, c'est celle qui fait comprendre que la promesse de Jésus est actuelle. Et que cette promesse du Christ étant actuelle, nous devons vivre de cette promesse de Jésus. Et vivre de cette promesse de Jésus, c'est recevoir le paraclet. Et là, notre espérance alors grandit. Notre espérance se purifie. Par le don de crainte. C'est toujours par le don de crainte que notre espérance se purifie en faisant de nous justement ceux qui ont peur d'arrêter le souffle de l'esprit, qui ont peur d'empêcher de résister au souffle de l'Esprit Saint. Ce souffle qui est si doux. Ce souffle qui s'empare tellement de tout nous-mêmes pour creuser une intériorité. C'est l'Esprit Saint qui, dans son exercice du don de crainte par rapport à l'espérance, creuse en nous intériorité toujours plus grande. Et je crois que l'espérance cause énormément cette intériorité. Parce que par l'espérance, nous comprenons que ce qui est promis est déjà présent, mais qu'il doit venir encore beaucoup plus. L'Esprit Saint est bien en nous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Mais il doit venir beaucoup plus. Parce que nous ne vivons pas assez de cette dépendance étroite à l'égard du paraclet. Étant donné que nous sommes trop repliés sur nous-mêmes, que nous sommes trop encore remplis de choses humaines, de nos projets, de notre avoir, c'est le don de crainte qui fait vivre de la béatitude. Il faut vivre de cette béatitude des pauvres pour que notre cœur s'agrandisse et qu'il ait soif de l'Esprit Saint. Si nous n'avons pas soif de l'Esprit Saint, mais le don de crainte n'agit pas en nous. Il faut que le don de crainte agisse en nous pour que l'Esprit Saint prenne possession complète de nous-mêmes et mette en nous cette soif. Demandez très fort ça. Pendant ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, vous nous y préparez, voyez pas, intérieurement, par cette très grande soif. Nous en avons tout. plus besoin d'être radicalement purifié pour être agrandi. Étant donné que toute purification nous agrandit à la taille de Dieu. Alors qu'au contraire, lorsque nous ne sommes pas purifiés par notre égocentrisme, par notre orgueil, par le souci trop grand de la gloire humaine, de l'efficacité, de tout ce qui vient empêcher le souffle de l'Esprit Saint. Cette espèce de l'Esprit Saint. Alors je continue à la troisième strophe. Mais me direz-vous, si l'entendement n'a pas des connaissances distinctes, la volonté sera oisive et incapable d'aimer. Et c'est là un obstacle qu'il faut toujours éviter dans la voie spirituelle. Car la volonté ne peut aimer que ce qui est perçu par l'entendement. Cela est vrai, surtout lorsqu'il s'agit des opérations et des actes que l'âme opère naturellement. La volonté n'aime que ce que l'entendement connaît d'une manière distincte. Donc les rapports de l'intelligence et de la volonté. Mais quand il s'agit de la contemplation dont nous parlons, et par laquelle Dieu, comme nous l'avons dit, infuse quelque chose de lui-même dans l'âme. Ce quelque chose de lui-même dans l'âme, l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. Pas de contemplation infuse sans le don de l'Esprit Saint, sans la mission de l'Esprit Saint. C'est impossible. Il peut y avoir une contemplation acquise par nous-mêmes, au plan philosophique et théologique. Mais la contemplation infuse, c'est la contemplation toute d'amour qui se fait sous le souffle de l'Esprit Saint, par le don de sagesse. Et quand il s'agit de la contemplation dont nous parlons, fruit du don de sagesse, et par laquelle Dieu, comme nous l'avons dit, infuse quelque chose de lui-même dans l'âme. Il n'est pas nécessaire que l'âme ait une connaissance distincte, ni qu'elle mette en activité son intelligence. C'est par un seul acte, en effet, que Dieu lui communique lumière et amour, tout à la fois. Et c'est là une connaissance surnaturelle, pleine d'amour. Nous pouvons dire que c'est une lumière ardente qui réchauffe, car cette lumière provoque en même temps l'amour. Vous voyez, c'est une chose si importante pour nous. Dieu est lumière et amour. De Dieu, lumière et amour ne font qu'un. Et quand Dieu nous communique le don de sagesse, il unit en nous et au plus intime de nous cette unité entre amour et intelligence. Et la contemplation divine infuse, elle est l'œuvre de l'amour, elle est l'œuvre du don de sagesse. Elle provient de l'amour et elle est toute lumineuse. Alors quand je dis toute lumineuse, comprenons bien, nous la vivons dans l'obscurité de la foi. Toujours, tout est vécu dans l'obscurité de la foi. C'est ce qui explique comment on peut très bien ne pas avoir conscience de cette action de l'Esprit Saint sur nous. La béatitude de la foi. Mais il faut en avoir soif. Et c'est ça la grâce de l'Esprit Saint, c'est d'avoir soif de cette contemplation. Et de recommencer tout le temps, même si l'expérience est lointaine. Lointaine, vous voyez, dans le temps. Elle n'est pas lointaine au point de vue de Dieu. Mais dans le temps, ça c'est l'épreuve de la patience. Ici, la patience des saints. Et la patience des saints, c'est justement d'attendre
dans cette soif de la venue de l'Esprit Saint, d'attendre en sachant que l'Esprit Saint nous est donné et que cette vie divine, elle est vécue. Même si on n'a pas d'expérience immédiate. Ça, c'est le très grand mystère de notre vie divine. Et aujourd'hui, trop facilement, on prolonge ce que nous vivons au niveau psychologique, notre conscience psychologique. Nous le prolongeons trop facilement dans notre vie divine surnaturelle. Alors, en prolongeant de cette manière-là, on est en dehors du mystère lui-même. Parce que le mystère d'intériorité de l'action de l'Esprit-Saint en nous, par le don de sagesse, fait que nous découvrons des abîmes de profondeur qui échappent complètement à notre conscience psychologique. Il y a une conscience de foi qui est rude parce que c'est dans l'obscurité, c'est dans la non-évidence. Il y a une conscience de foi nous aide à adhérer pleinement au bon plaisir du Père sur nous. À travers ce don que l'Esprit Saint nous fait et cet appel intérieur à la contemplation. Je crois que c'est bien cela que Saint Jean de la Croix veut nous faire comprendre. Les voies de Dieu sont totalement différentes de nos voies, nous. Et si facilement nous prolongeons. Alors c'est très déroutant, ça, vous voyez. Et ça fait qu'à certains moments, on risque de désespérer. Parce qu'on oublie trop ce que la foi nous dit. Que l'action de Dieu sur nous est souterraine. L'action de l'Esprit Saint, elle est souterraine. Et quand nous avons une expérience et certaines lumières, l'expérience et la lumière est extérieure au mystère. C'est sûr. Le mystère, il est atteint dans la foi. Et donc, il est toujours atteint comme un au-delà de notre conscience, de notre expérience. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le mystère de la parole de Dieu. Ce que vous comprenez de la parole de Dieu quand vous lisez l'Écriture, ce n'est pas le mystère de la vérité divine qui se communique à vous à travers la parole. Et nous risquons, nous, d'être saisi, séduit par ce que nous comprenons. Maintenant, c'est normal, parce que c'est immédiat, ça. Tandis qu'on n'est jamais séduit par l'obscurité du mystère. On pâtit à ce moment-là. Et notre intelligence pâtit, littéralement. Parce que c'est lourd pour nous. Je ne dis pas que c'est contre nature, mais presque. Puisque notre intelligence est faite pour l'évidence. Et la foi nous met dans l'obscurité. Elle nous plonge dans l'obscurité, dans quelque chose que nous n'arrivons pas et que nous ne pouvons pas exprimer. Pour rien dire. Adhérer dans le silence. Alors ça exige de nous de répéter tout le temps, notre soif, jusqu'au moment où l'Esprit Saint, je peux le faire quand il veut, nous permet de vivre. connaissance cachée. Aucune connaissance, mais une présence. Mystérieuse, divine.
C'est par un seul acte, en effet, que Dieu lui communique lumière et amour. Connaissance surnaturelle, pleine d'amour. Nous pouvons dire que c'est une lumière ardente qui réchauffe, car cette lumière provoque en même temps l'amour. Cette lumière, néanmoins, demeure confuse et obscure pour l'entendre. C'est l'obscurité de la foi, donc elle demeure confuse et obscure. Vous n'avez pas la possibilité de le dire. Et c'est très rassurant quand on peut dire quelque chose. Vous savez bien, hein? C'est comme naturel à nous de pouvoir dire. Tant qu'on ne peut pas le dire, on le porte comme quelque chose qui demeure très imparfait. Et donc on le porte avec un peu de j'allais dire comme une chose un peu violente. Tandis que quand vous pouvez dire quelque chose assez reposant, c'est pour ça que les hommes aiment de parler. Parce que c'est reposant. Tandis que le silence ne nous donne pas ce repos. Surtout quand il s'agit de ce silence à l'intérieur de la foi qui dépasse tout ce que nous pouvons dire. Cette lumière, néanmoins, demeure confuse et obscure pour l'entendement. Parce que c'est une connaissance de contemplation qui, selon l'expression de Saint-Denis, est un rayon de ténèbres pour l'entendement. C'est Denis qui dit cela dans ce point de vue de la théologie mystique. Aussi, telle sera la connaissance dans l'entendement, tel sera l'amour dans la volonté. Comme cette connaissance que Dieu infuse dans l'entendement est générale et obscure, et qu'elle ne porte sur rien de distinct. La volonté de son côté aime d'une façon générale, sans aimer un objet distinct présenté par l'intelligence. Vous voyez, au point de vue psychologique, c'est comme rien, puisque on ne peut plus rien concevoir, saisir d'une façon déterminée. C'est la présence, et uniquement. On est saisi de l'intérieur, pris de l'intérieur, sous le souffle de l'Esprit Saint. S'il n'y a plus aucun concept propre, il y a uniquement cette adhésion, toute pure, dans le don même de l'Esprit Saint, dans la présence même de l'Esprit Saint. Comme cette connaissance que Dieu infuse dans l'entendement est générale et obscure, et qu'elle ne porte sur rien de distinct, la volonté de son côté aime d'une façon générale, sans aimer un objet distinct présenté par l'intelligence. Dieu est lumière et amour. Aussi, quand il se communique à l'âme, il informe également ces deux puissances, l'entendement et la volonté, de connaissance et d'amour. Mais comme il n'est pas intelligible en cette vie, la connaissance, je le répète, reste obscure. Il en est de même de l'amour pour la volonté. Sans doute, il arrive parfois que dans cette communication, Dieu se donne plus à l'une de ses facultés qu'à l'autre et la blesse davantage. Oui, surtout ne mettez pas une juxtaposition en imaginant intelligence et volonté. Puisque La volonté est dans l'intelligence, et l'intelligence est dans la volonté. C'est forcé. Puisque il n'y a rien, il n'y a pas d'organe physique pour l'intelligence et la volonté. Donc il n'y a pas d'extériorité de l'un par rapport à l'autre. Et c'est ce qui explique comment Dieu illumine l'intelligence et la volonté dans un même temps. Et c'est ça qui explique, autant qu'on peut dire expliquer, le don de sagesse. Le don de sagesse réalise cette unité dans un exercice divin. Dieu est lumière et amour aussi. Quand il se communique à l'âme, il informe également ces deux puissances, l'entendement et la volonté, de connaissance et d'amour. Mais comme il n'est pas intelligible en cette vie, la connaissance, je le répète, reste obscure. Il en est de même de l'amour pour la volonté. Sans doute, il arrive parfois que dans cette communication, Dieu se donne plus à l'une de ses facultés qu'à l'autre et la blesse davantage. Parfois, l'âme reçoit plus de connaissance que d'amour. D'autres fois, elle reçoit plus d'amour que de connaissance. Ou bien, elle ne recevra que des connaissances sans aucun amour, comme aussi elle ne recevra que de l'amour sans aucune connaissance. Voilà pourquoi je dis que si l'âme accomplit naturellement des actes intellectuels, elle ne peut pas aimer sans comprendre ce qu'elle aime. Mais quand il s'agit de ces actes que Dieu accomplit en elle, et lui infuse, comme cela arrive dans le cas dont nous parlons, c'est tout différent, car Dieu peut se communiquer à une puissance et non à l'autre, mais il peut enflammer la volonté par une touche du feu de son amour, sans que l'entendement y comprenne rien. Il en est ici comme d'une personne qui est réchauffée par le feu, et qui cependant ne voit pas le feu. Aussi, la volonté se sent-elle très souvent enflammée, attendrie, toute transportée d'amour, sans rien savoir ni rien comprendre de plus particulier qu'avant. C'est Dieu qui règle en elle l'amour, comme l'affirme l'épouse des Cantiques, quand elle dit: le roi m'a fait entrer dans son cellier et il a réglé en moi la charité. Il n'y a donc pas à craindre quand l'âme est dans ce repos dont nous parlons, car si elle ne fait d'elle-même des actes d'amour en rapport avec des connaissances particulières, Dieu les fait en elle. Il l'enivre secrètement de son amour, qu'il lui infuse à l'aide de la connaissance de contemplation, ou sans elle, comme nous venons de le dire. Et ces actes d'amour dépassent d'autant plus en saveur et en mérite ce qu'elle ferait, que le moteur de cet amour, où ce grand Dieu qui l'infuse est plus parfait. Je crois que c'est bien la description de ce que représente l'exercice même du don de sagesse que Saint Jean de la Croix essaie de nous faire comprendre là. Le don de sagesse inséparable de la charité, qui est l'exercice divin de la charité, fait comprendre cette immanence de l'Esprit Saint dans notre cœur par l'agapé et l'immanence de notre intelligence transformée par la foi et sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ne fait plus qu'un dans son exercice.